France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, des milliers d'éclairs d'orage en quelques heures, alerte rouge aux pluies et inondations dans le Gard. Les intempéries frappent depuis ce matin le département et le nord de l'Hérault. Le point le plus critique, c'est le secteur entre Montpellier et Nîmes. 7 départements en tout en alerte en Occitanie. Nous faisons le point dans un instant. Quelles annonces pour la police ? Emmanuel Macron prononce en ce moment même le discours de clôture du Beauvau de la sécurité. Les intentions d'embauche atteignent des records et le quadruple entre les 3 et 4e trimestres, selon Manpower. La Chine risque-t-elle le krach immobilier ? Le principal promoteur s'enfonce un peu plus dans la dette. Risque de contagion au reste de l'économie. Nous en parlons avec un spécialiste de la Chine. Peut-on effacer en une rentrée des mois de crise ? La rentrée universitaire se tient en ce mois de septembre. Ce sera notre sujet à 13h30. J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000. Avec nous, le président de l'université d'Amiens, où l'alerte était vive sur la santé des étudiants l'année dernière, et la vice-présidente du syndicat Phage. Dans le 13-14 encore, le chewing-gum n'a plus la cote, les ventes chutent, le groupe Mars supprime 280 emplois en Alsace, la reprise de la Ligue des champions de foot ce soir, Johnny que je t'aime, une statue et une esplanade à Bercy, et puis vos rendez-vous dans le 13-14. Le feuilleton, le chantier de Notre-Dame.
On va emprunter un des ascenseurs qui permet de monter à travers les échafaudages qui ceinturent la cathédrale.
Aujourd'hui, Rémi Brancato avec les cordistes, le vif de l'histoire, l'histoire des bourgeois de Calais, la sculpture de Rodin, et puis la grande soprano Véronique Gens au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Orage, pluie, inondation, c'est une alerte rouge qui est en cours sur le département du Gard. Ne pas aller chercher les enfants scolarisés, ils sont en sécurité. S'éloigner des cours d'eau, ne pas descendre dans les sous-sols, ne pas prendre sa voiture. Voilà les consignes de la préfecture et des pompiers. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Les très fortes intempéries touchent également le nord de l'Hérault. Que peut-on dire de la situation à 13h02?
Eh bien, c'est tout un secteur qui se trouve au sud-ouest de Nîmes qui est particulièrement touché. Il est tombé énormément d'eau, mais aussi des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong. À cela s'ajoute le vent, la foudre aussi par endroits. Et en ce moment, le niveau de l'eau continue de monter. Nathalie travaille dans un magasin de cuisine à Calvisson, c'est entre Nîmes et Montpellier.
Le niveau monte au niveau de ma voiture aussi, donc potentiellement j'ai des personnes avec des voitures très hautes ou des pick-up qui peuvent venir me récupérer, donc ça devrait le faire, mais effectivement le niveau monte dangereusement là.
Juste un peu plus au sud, à Vergèze cette fois, ce sont les rafales de vent qui impressionnent. Jean et ses salariés sont coincés à l'intérieur de leur magasin d'optique réfugiés au premier étage.
Avec le vent et le courant, elle est quand même rentrée sous le rideau métallique et la porte. Il y avait un flux d'eau qui rentrait, qui a envahi du coup tout le magasin sur 1 à 2 cm. Donc on a réussi à soulever le maximum de meubles, de débrancher tous les ordinateurs. Donc tant que ça ne s'arrête pas, on ne peut rien faire de plus.
Les sapeurs-pompiers ont proposé à plusieurs mises en sécurité. Des élitreuillages sont en cours en ce moment le long de l'autoroute A9. Il n'y a plus de train entre Nîmes, Gare Inondée et Montpellier. Pas de victimes, précise la préfète du Gard, qui demande aux habitants de ne surtout pas bouger de là où ils se trouvent, Marie-Françoise Lecaillon.
Tous les enfants restent à la cantine ce midi. Donc évidemment, je demande aux parents de ne pas aller chercher leurs enfants, de même que nous conseillons à toutes les entreprises ou toutes institutions qui sont dans cette zone et à Nîmes, de rester sur place.
Pour les sorties d'école et du travail ce soir, il faut attendre de voir comment la situation évolue. 300 sapeurs-pompiers du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône vont arriver en renfort dans le Gard dans les heures qui viennent.
Le Gard en alerte rouge, 6 autres départements en orange, l'Hérault, l'Aveyron, le Lot, le Tarn et Garonne et la Haute-Garonne. La météo à la fin de ce journal et un nouveau point si nécessaire d'ici là. C'est dans un commissariat de police qu'Emmanuel Macron s'était rendu le premier soir de sa visite à Marseille. C'est dans une école de police qu'il est aujourd'hui, près de 2 semaines plus tard, pour conclure le Beauvau de la sécurité. Roubaix, Maxence Lambrecq, vous êtes en direct avec nous. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Discours du président toujours en cours. Que retenir pour l'instant et qu'attend-on ?
Bientôt des changements radicaux dans la procédure pénale contre les lourdeurs administratives. Derrière ces piles de papiers, dit le président, il y a des procès qui prennent trop de temps, les symptômes d'une impuissance que nos concitoyens voient. Il promet donc beaucoup moins de rappels à la loi et davantage d'amendes pénales forfaitaires pour aller plus vite dans les sanctions. Et puis dans quelques minutes, le discours devrait durer 1 heure, Emmanuel Macron va développer une fois de plus son en même temps effort de l'État, effort des policiers. Dans la première colonne, il devrait bientôt annoncer une enveloppe supplémentaire supplémentaires, en plus des 900 millions d'euros déjà prévus dans le budget 2022 pour le ministère de l'Intérieur, davantage de vidéosurveillance, une académie de police à Montpellier pour la formation continue et deux fois plus de temps de formation pour les gardiens de la paix, non plus 9 mois mais 18 mois. Dans la deuxième colonne, effort des policiers, Emmanuel Macron va demander plus de transparence au sein de l'IGPN, la police des polices, qui ne sera pas supprimée mais contrôlée par une délégation parlementaire, de fait indépendant. Emmanuel Macron va aussi insister ici au pied des tours sur la relation police-population, lui qui avait dénoncé les contrôles aux faciès trop nombreux en décembre dernier.
Merci Maxence Lambrec, on vous retrouve tout à l'heure ainsi qu'Emmanuel Leclerc pour analyser ce discours. Le cap des 50 millions de vaccinés n'est toujours pas atteint en France et le rythme ralentit. 49 700 000 primo-vaccinés hier. Pour ceux qui en sont à leur troisième dose, la campagne a commencé dans les maisons de retraite. Et l'obligation vaccinale pour les fonctionnaires des hôpitaux entre en vigueur demain. Plus de 95% sont vaccinés selon le gouvernement. Mais les rétifs se font entendre. Aujourd'hui, la CGT Santé appelle à manifester. Marie est dans le cortège à Clermont-Ferrand. Plutôt changer de métier que de se faire vacciner.
C'est la plus grave des suspensions. On peut ni travailler ailleurs, ni rester là et travailler là et on n'est pas payé. Ça relève d'une faute lourde. Quelle est la faute lourde? La loi est même pas sortie. Je suis faute lourde de quoi? Tout ça, ça n'a pas de sens. Comment on nous propose des vaccins avec une technologie différente pour lequel on a zéro recul? Comment on justifie ça? Qu'est-ce qu'on va faire tous ces gens? Moi, s'il y a même ne serait-ce que 5% du CHU, 5%, ça fait quoi? 250, 300 personnes? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Moi, ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 15 ans que je vois des lits fermés. Il y a un moment, je me positionne. Je vois pas pourquoi j'irais à l'encontre de ce que je pense. Je vais pas me renier pour des gens qui n'en ont rien à faire. Donc si demain je fais boulangère, et ben je ferai ça avec amour, comme je fais aujourd'hui.
Propos recueillis par Claudie Hamon de France Bleu Pays d'Auvergne. Les études s'empilent, elles vont toutes dans le même sens, très positif. La dernière en date est même spectaculaire. L'activité économique reprend fortement en cette fin d'année en France. Le taux de chômage a retrouvé son niveau d'avant-crise à une hauteur assez élevée tout de même, 8,1%. Et les intentions d'embauche s'envolent si l'on en croit Manpower, le spécialiste de l'intérim. La voilà, la dernière étude en date. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les intentions d'embauche au quatrième trimestre quadruple par rapport à la période juillet-septembre.
Oui, 37% de hausse, à relativiser bien sûr dans la période, mais ça reste un record absolu à ne pas négliger et que le président de Manpower France, Alain Romillac, reconnaît ne pas avoir anticipé.
C'est du jamais vu. Ça montre que nous sommes dans une reprise avec une croissance très forte. Et les entreprises avaient stoppé leur recrutement sur les trimestres précédents impactés par la pandémie. Et aujourd'hui, leurs carnets de commandes sont en train de se remplir. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles nous disent qu'elles refusent aujourd'hui un certain nombre de commandes parce qu'elles n'ont pas suffisamment de manœuvre.
Ouais, c'est un sujet déjà développé ici sur notre antenne. 64% des employeurs éprouvent des difficultés à trouver les bonnes personnes en raison du manque de profils qualifiés, alors que le secteur manufacturier, l'aéronautique, le bâtiment manque de bras, des métiers physiques qui rebutent parfois les candidats.
J'ai les attentes des personnes par rapport à leur travail à changer et qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'attirer sur un certain nombre de métiers des compétences qu'avant la crise et qu'on est dans une phase d'adaptation qui sans doute va durer quelques mois pour bien, si je peux me permettre cette expression, recaler, attendre des entreprises et attendre des candidats, attendre des salariés.
Attente qui se porte moins vers l'hôtellerie, la restauration, le secteur en cette rentrée affiche une dynamique moins forte que les autres.
Hier, la Banque de France a relevé sa prévision de croissance pour 2021. 6,3%. Si l'économie se porte bien, à la rubrique consommation, un produit est en train de passer de mode au fil des années. C'est le chewing-gum. Les ventes mondiales ont chuté de 14% l'an dernier par rapport à 2019, selon le journal britannique The Economist. Pas écolo le chewing-gum, moins exposé dans les rayons de supermarché, moins utile derrière les masques. Les raisons évoquées sont diverses. Et les conséquences sociales se voient aujourd'hui. Le groupe Mars annonce la suppression de 280 emplois sur les 350 de son usine de Bissheim dans le Haut-Rhin. Face à une baisse drastique et continue de la demande, précise l'entreprise, la production de chewing-gum en tablette dans cette usine s'arrêtera d'ici à un an. Moyenne d'âge des salariés, 49 ans. Le maire de la commune, Gérard Rugues, est très inquiet pour eux.
Les salariés qui étaient très fidèles à l'entreprise, avec une moyenne d'âge quand même assez élevée, hein, donc quid de l'ensemble de ces salariés qui vont se retrouver, quid des conséquences sur le territoire, et voilà, et comment on remplace tout ça. C'est brutal, c'est des gens qui sont formés à un certain niveau de métier. Géographiquement, ils sont tous installés aussi. Donc voilà, leur mobilité n'est pas évidente, donc il va falloir effectivement trouver des solutions adaptées Alors j'attends aussi d'avoir des précisions par rapport à l'accompagnement donc de l'entreprise de tous ces départs, mais sachez quand même globalement c'est pour nous une catastrophe quoi, donc pour le territoire après la catastrophe de Fessenheim.
La centrale nucléaire de Fessenheim arrêtée l'année dernière. Le maire de Bissheim était avec Guillaume Schum de France Bleu Alsace. L'économie en Chine à présent, il n'y a aucune garantie que le groupe soit en mesure d'honorer ses obligations financières. Derrière ce message peut subvenir une crise majeure en Chine. Le message passé à la bourse de Hong Kong émane du premier promoteur immobilier en termes de chiffre d'affaires, Evergrande. Il revendique 200 000 emplois directs, près de 4 millions indirectement. Encore un chiffre énorme, comme seule la Chine en réserve les dettes d'Evergrande. Le passif est de près de quelques 260 milliards d'euros. Nous vous en parlions la semaine dernière dans ce journal. La crise s'accélère en ce début de semaine. Pour en comprendre les enjeux avec nous, Marc Julienne, spécialiste de la Chine à l'Institut français de relations internationales. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment ce groupe s'est-il retrouvé dans cette situation ?
Il y a effectivement le fait que la crise de la Covid-19 a été un problématique pour l'ensemble de l'économie chinoise. Et puis il y a surtout un contexte politique très important à rappeler, c'est que les autorités financières chinoises ont au printemps 2020 réglementé le crédit dans l'économie chinoise. Oui. Pour justement, puisque beaucoup d'entreprises chinoises, et Evergrande en est l'archétype, ont été complètement dopées, droguées au crédit. Et donc, on a pu s'endetter extrêmement massivement, ce qui a permis de développer cette bulle immobilière dont on parle en Chine depuis de nombreuses années. C'est pas du tout quelque chose de nouveau pour les économistes. C'est quelque chose qui menace en Chine. Et donc, voilà, depuis le début de l'année 2021, Evergrande a commencé à céder certaines activités, puisque c'est une holding immense. Ce n'est pas seulement de l'immobilier. Ils sont aussi impliqués dans l'automobile, dans l'agriculture, dans le divertissement, etc. Et donc voilà, petit à petit, ils ont dû se séparer de leurs activités. Leur cote en bourse a diminué progressivement jusqu'au milieu de l'été, et particulièrement ces derniers jours où l'action de l'entreprise a complètement décroché.
Est-ce que ça veut dire que des milliers, des millions peut-être de Chinois risquent de perdre leurs économies dans cette affaire ?
Alors oui, vous avez rappelé les chiffres. Il y a d'abord les employés, il y a ensuite les emplois directs, et puis il y a effectivement tous les investisseurs, mais des investisseurs qui peuvent être des particuliers, qui auraient acheté par exemple un appartement ou une maison sur plan et qui n'est pas encore fini de construire. Si le groupe était amené à s'effondrer, les personnes ne pourraient pas récupérer leur logement qui ne serait pas terminé. Donc ça peut potentiellement créer une crise économique grave en Chine, pour la Chine, et puis évidemment on ne sait pas quelles seraient les réactions en chaîne, les réactions au-delà du secteur immobilier en Chine, mais aussi au-delà de la Chine, au-delà des frontières chinoises, puisqu'il y a aussi des groupes étrangers qui investissent dans ce groupe et qui pourraient aussi perdre leurs actifs.
En précisant que l'immobilier est un secteur clé pour la Chine, je crois que c'est un quart des investissements l'année dernière.
Alors oui, c'est un secteur très important puisque c'est l'un des secteurs qui a été utilisé comme un moteur du développement intérieur en Chine depuis les années 80-90, et ce qui a été renforcé encore ces dernières décennies, notamment pour changer de modèle économique. Vous savez, on parle de la Chine comme l'atelier du monde puisque son économie repose très fortement sur les exportations, et depuis plusieurs années, les dirigeants chinois essayent de transiter vers un autre modèle, vers la consommation intérieure, et l'immobilier permettait aussi aux Chinois de s'enrichir via l'immobilier.
Alors, on pense à la crise des subprimes il y a 13 ans aux États-Unis. À l'époque, on disait « too big to fail » pour certaines entreprises. Est-ce que c'est le cas d'Evergrande, trop grosse pour que les autorités chinoises la laissent couler ?
Alors exactement, je pense que le parallèle est très bon. Justement, on disait too big to fail parce que la chute d'une telle entreprise aurait des conséquences économiques tellement importantes que le gouvernement, donc en 2008 c'était les États-Unis, ne pourrait pas ne pas porter secours à cette entreprise. En l'occurrence, c'était la banque Lehman Brothers.
Oui.
Finalement ils l'ont laissé tomber pour envoyer un signal que c'était plus possible de continuer cette spéculation. Donc là le gouvernement chinois se retrouve dans ce même dilemme, surtout que justement le gouvernement essaye de lutter contre la spéculation, donc ce serait un signal très fort à envoyer à toute l'industrie et toute l'économie chinoise. En revanche, le risque est aussi très important, comme je le disais tout à l'heure, puisque il y a un risque pour l'industrie de l'immobilier en Chine, mais aussi pour l'économie. Et plus que ça, même, il y a un risque politique et social, puisque si on a vu ce matin d'ailleurs des manifestations devant le siège de Evergrande en Chine, s'il y avait des centaines de milliers ou des millions de gens qui se retrouvent au chômage, une crise économique par-dessus, ce serait une crise sociale qui pourrait être importante pour les autorités chinoises, et ça c'est vraiment la très grande peur de Pékin.
Merci Marc Julien, spécialiste de la Chine à l'IFRI, d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer cette crise. Alors qu'en France, les intentions de vote à ce stade, à 7 mois de la présidentielle, ne sont pas encourageantes pour la gauche, elle connaît en revanche une vraie embellie en Europe du Nord. Les travaillistes viennent de remporter les législatives en Norvège. Ils sont même en passe d'avoir la majorité absolue au Parlement. Ils l'ont obtenue. Tous les pays nordiques européens devraient ainsi être gouvernés à gauche. Alors comment explique-t-on ce regain ? Mathieu Gallard est directeur d'études chez Ipsos. Le point commun qu'il voit à tous ces pays, c'est le retour en grâce de l'État-providence depuis la crise sanitaire.
Au-delà des différences nationales et des dynamiques nationales qui sont propres aux différents pays scandinaves, on peut constater qu'effectivement, il y a une tendance au retour de la social-démocratie dans ces pays, et on peut faire le lien avec la crise sanitaire que le monde entier a connue depuis un an et demi, parce que cette crise sanitaire, elle a remis en avant les enjeux économiques et sociaux, évidemment l'enjeu de la santé, mais aussi des enjeux liés à la protection sociale, à l'emploi, au pouvoir d'achat. Et quand les campagnes se font sur ce type de sujet, naturellement, ça tend à davantage favoriser la gauche, alors que dans les années passées, les campagnes électorales dans ces pays avaient tendance à plus se faire sur des enjeux qui favorisaient la droite, et notamment la droite radicale. On pense notamment à l'immigration.
Un propos recueilli par Louise Baudet à propos de politique à l'étranger. Une particularité de la Californie se manifeste aujourd'hui. La Constitution permet l'organisation de référendums pour révoquer le gouverneur, le dirigeant de l'État. Il suffit que 12% des votants à la précédente élection le demandent. Aujourd'hui donc, deux questions sont posées aux Californiens. L'actuel gouverneur démocrate Gavin Newsom doit-il partir ? Et si oui à plus de 50%, qui doit le remplacer ? Son adversaire républicain est évidemment en embuscade. Et l'affaire est suffisamment sérieuse pour que Joe Biden lui-même s'engage dans cette campagne. Les risques pour le démocrate d'être chassé sont faibles, mais Biden, entre autres, redoute qu'une faible participation des électeurs de son camp n'entraîne une surprise. France Inter en Californie, Loïc Piala.
Dans un État aussi progressiste que la Californie, le plébiscite d'un gouverneur démocrate paraît gagné d'avance. Alors Joe Biden a trouvé un argument imparable pour convaincre ceux qui prévoyaient de rester chez eux en ce jour d'élection. Le candidat républicain ressemble à s'y méprendre à Donald Trump, prévient le président américain. C'est un clone de Donald Trump. Imaginez ce qui se passerait s'il était gouverneur de cet État. Vous ne pouvez pas laisser cela arriver. Cet homme s'appelle Larry Elder, un animateur de radio ultra-conservateur. Il a déjà annoncé qu'il abrogerait toute obligation vaccinale ou de port du masque. Un profil très différent du modéré Arnold Schwarzenegger, le dernier gouverneur républicain de Californie. Mais les républicains californiens sont très motivés. Ils étaient des centaines à attendre Joe Biden devant cette université de Long Beach, des pancartes pro-Trump à la main. De quoi inquiéter Tracy, une sympathisante du gouverneur Gavin Newsom. Je suis relativement confiante, dit-elle, mais j'ai vu des choses se passer. Je pensais que Trump ne pourrait jamais être élu, et regardez. Et maintenant, je suis surprise de voir autant de ses sympathisants ici. Le gouverneur californien a le pouvoir de nommer un des deux sénateurs de l'État en cas de décès ou de démission. Vu l'équilibre très précaire des forces à Washington, les démocrates veulent éviter tout risque dans l'État le plus peuplé de l'Union. À Long Beach, Loïc Piala pour France Inter.
Dans le sud des États-Unis, deux semaines après le passage d'Ida, un nouvel ouragan a touché terre ces dernières heures. Nicolas, on recense déjà des dizaines de milliers de personnes privées d'électricité au Texas et en Floride. Le maire de Houston, quatrième ville des États-Unis, plus de 2 millions d'habitants, leur demande d'éviter les rues et les autoroutes. Le meilleur maire du monde est français. C'est Philippe Rio, le maire communiste de Grigny. Une fondation britannique à but non lucratif, la City Mayor Foundation, vient de lui décerner ce titre à égalité avec le maire de Rotterdam. Elle organise une cérémonie tous les deux ans. Grigny, Essonne, banlieue parisienne, une des villes les plus pauvres de France, 45% de taux de pauvreté, sans doute plus depuis le Covid, dit son premier élu. Réaction au moment de recevoir ce titre.
D'abord, la situation est quand même difficile, donc on ne perd pas de vue notre quotidien. C'est une belle surprise, c'est une belle récompense de la mobilisation d'un collectif, parce qu'un maire, c'est pas un super-héros. Voilà, c'est la récompense du travail, du chemin que nous avons pris, de l'absence de résignation. Voilà, on n'est pas fataliste, on avance quand même malgré les très grandes difficultés, et c'est la reconnaissance de ça, et ça nous donne un élan remarquable. Si aujourd'hui, ce titre peut permettre à un gamin qui cherche un stage et qui affiche fièrement Grigny sur son CV et ne change pas la ville parce qu'il en a honte ou parce qu'il sait que c'est c'est discriminant, eh bien, on aura gagné quelque chose de très important, somme toute.
Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Vous connaissez bien Philippe Rio, qui fait partie de vos interlocuteurs. Qu'est-ce qui lui vaut ce titre de meilleur maire du monde?
Alors, le jury de ce fameux prix est très clair, hein, c'est son engagement à lutter contre la précarité, à vouloir faire même de Grigny un laboratoire national pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté. Repas gratuits dans les écoles, travail de fourmi avec les associations sur la formation des jeunes, sur l'aide alimentaire, avec les bailleurs sociaux aussi lors du premier confinement qui a été extrêmement violent socialement pour les habitants de Grigny. Philippe Rio, c'est aussi l'homme qui est derrière l'appel de Grigny en 2017 pour des états généraux de la politique de la ville. Appel qui avait un peu bousculé Emmanuel Macron à l'époque. C'est lui aussi, entre autres, qui est derrière l'appel plus récent à consacrer 1% du plan de relance aux quartiers populaires. Il a d'une certaine manière harcelé l'État ces dernières années à grands coups de tribunes, de prises de parole. Il sait communiquer, c'est clair, et ça a en partie marché. Il a obtenu des financements pour rénover la cité de la Grande Borne, pour redresser la gigantesque copropriété dégradée de Grigny 2, où les marchands de sommeil ont longtemps prospéré, quartier en difficulté toujours, au cœur duquel il habite encore aujourd'hui. Information qui en dit long également sur le personnage.
Merci Claire Chaudière. Comme promis, retour à Roubaix pour le discours d'Emmanuel Macron à l'école de police, la conclusion du Beauvau de sécurité et cette première annonce importante, une loi de programmation pour penser la police jusqu'en 2030.
On ne peut pas piloter nos politiques de sécurité à l'embardé, au volant, à l'émotion. Vous valez mieux que ça, notre nation vaut mieux que ça. Et il faut donc que nous ancrions nos stratégies dans le temps long, en matière de moyens, de formation, d'engagement. Voilà pourquoi j'ai décidé que nous porterons une loi de programmation pour la sécurité intérieure, et même pour les sécurités intérieures, car il s'agit de tout le champ d'action de la place Beauvau. Le but est de penser la police et la gendarmerie de 2030. Une police qui doit faire face aux nouvelles formes de délinquance qui pullulent dans l'espace numérique, le deal par messagerie cryptée, les escroqueries digitales, la cybercriminalité. Une police qui doit se saisir des technologies numériques pour aller plus vite, enquêter plus efficacement. Une police qui doit être formée, équipée en fonction des nouvelles menaces qui pèsent sur la société. Le terrorisme, mais aussi la violence débridée, les manifestations sporadiques, l'internationalisation du crime. Le champ n'a jamais été si vaste.
Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste des questions de police à France Inter. Voilà un extrait sélectionné par Maxence Lambrec de ce discours à Roubaix. Quelles autres annonces dans ce discours qui est toujours en cours, hein?
Mais il y a par exemple l'usage des fameuses amendes forfaitaires qui ont déjà été utilisées dans la lutte contre les stupéfiants, les trafics de stupéfiants, la consommation de stupéfiants. Eh bien, le chef de l'État souhaite l'élargir, élargir ce pilonnage comme il l'a fait sur les points de stup. Et ça concernerait l'occupation illégale des terrain par les gens du voyage. Le chef de l'État veut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Et puis, là où ça hante la vie des citoyens, dit-il, les occupations des halls d'immeubles, avec la mise en place donc de cette même amende pénale. Mais ce que souhaite également le chef de l'État, et la contrepartie de cette programmation dont nous avons parlé à l'instant, c'est qu'il veut beaucoup plus de bleus sur le terrain, il veut beaucoup plus de policiers et gendarmes sur la voie publique, et il souhaite, en l'espace de 10 ans, doubler le nombre de ses agents sur la voie publique. Il pense qu'on peut dégager des marges de manœuvre, il faut dégager les policiers des tâches administratives, réexaminer leur temps de travail, car les cycles horaires sont devenus illisibles et ils ne correspondent plus du tout aux besoins du terrain. Pour lui, fini le temps des compromis et il demande au ministre de l'Intérieur de conduire ses discussions d'ici le 1er janvier prochain. La deuxième ambition affichée par le chef de l'État ce midi, c'est de mieux prendre en charge les victimes. Il a évoqué tout le travail qui a déjà été fait, la formation de près de 90 000 agents, les postes d'intervenants sociaux, les téléphones de grande urgence, mais il souhaite faire beaucoup mieux avec la plainte en ligne mise en œuvre dès 2023, avec des référents à qui s'adresser, et puis surtout des applications numériques dédiées. Un gros chantier sur ce point-là, parce qu'on en est encore à l'âge de pierre.
Voilà pour cette série d'annonces qu'il faudra prendre le temps d'analyser au fil des heures, sachant encore une fois que le discours est toujours en cours. Maxence Lambrec, on vous retrouve à Roubaix. Cette visite dans les Hauts-de-France, Maxence, a évidemment une forte connotation politique. On est sur les terres de Xavier Bertrand.
Et oui, ces annonces auraient pu être faites à Paris par le Premier ministre, mais non, Emmanuel Macron se devait d'occuper le terrain régalien, d'aller sur les terres du RN et dans la région de Xavier Bertrand. En effet, pour contrer ces attaques de plus en plus nombreuses, le patron de région lui a promis un débat sur ce thème lors de leur froide mais cordiale poignée de main.
On aura un débat, un vrai débat,
c'est normal,
il va venir. Et, mais il y a aussi des actions qu'on doit conduire à court terme.
J'aurai l'occasion de l'exprimer demain, mais pas aujourd'hui.
Merci en tout cas d'être là,
monsieur le président. Monsieur le président du conseil régional, histoire de le remettre à sa place, de bien montrer que lui est au pouvoir et qu'il a déjà son projet pour le prochain quinquennat. Cette loi de programmation dont on vient de parler sera présentée en janvier, en pleine campagne, par l'ami de Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ici au premier rang. Le président des Hauts-de-France, président, présentera lui son projet sécuritaire demain. On vient de l'entendre. Le débat ne fait donc que commencer.
Maxence Lambrec en direct de Roubaix. Allez, avant la météo, ce constat, près de 4 ans après sa mort, Johnny est loin d'être oublié. C'est dans le quartier de Bercy, la salle où il a chanté plus de 100 fois, qu'une journée entière d'hommage se déroule ce mardi. Une statue du célèbre plasticien Bertrand Lavier, un bar Johnny, un concert ce soir retransmis sur France 2 avec Patrick Bruel, Florent Pagny, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Gaëtan Roussel et bien d'autres. Et puis autre chose encore, bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
En direct de Bercy où la statue a été inaugurée ce matin, où êtes-vous exactement Mathieu ?
Eh bien écoutez, je me trouve ici sur l'esplanade Johnny Hallyday devant l'Accor Arena. La plaque a été inaugurée par la maire de Paris, Anne Hidalgo et Laetitia, il y a quelques heures. Devant une salle où Johnny, vous l'avez dit, s'est produit plus de 100 fois, record absolu. La statue représentant un manche de guitare surmontée d'une moto a également été dévoilée. Et ce sont les bikers, les motards, qui ont lancé cette inauguration aux alentours de 11h.
C'était notre parrain, un petit truc pour sa mémoire. On va passer une bonne journée, j'espère. En plus, avec du Johnny, la preuve, c'est qu'on est tous là pour lui en moto. Donc, depuis l'âge de 16 ans, moi, je suis avec Johnny. Johnny, il fait de la moto, il fait de la musique. Il est toujours là, Johnny, hein. Attention, faut pas l'oublier.
Voilà, William et Patrick, deux des 150 bikers présents pour célébrer Johnny à Bercy ce matin. Et des fans, environ 500, venus parfois de très loin pour honorer leur idole.
Bah, en fait, c'est une bonne chose parce que nous, étant parisiens, on n'a pas forcément la chance d'aller à Saint-Barth. Donc, quand on aura un petit coup de blues ou quoi que ce soit, ça sera bien de venir sur cette place pour lui rendre hommage.
Il est beau mon blouson, non ?
Bah oui.
Même le gant, tout, les bagues, les bijoux, tout, il y en a partout. Et vive Johnny !
Mais il aurait fallu aussi un hommage et une statue de Johnny. Grandeur nature, ça aurait été encore le top du top.
Et ici, il a tout fait.
Il était chez lui à Bercy.
Il était chez lui.
C'était chez lui.
C'était, ouais, ça faisait partie d'une de ses maisons. Ouais.
Voilà les fans de Johnny qui seront au concert à Bercy ce soir avec une pléiade d'artistes qui reprendront évidemment les grands tubes de Johnny, car la musique, Bruno...
Merci Mathieu Culeron en direct de Bercy. La soirée concert Johnny que je t'aime, c'est à 21h05 sur France 2. Vous préférerez peut-être une soirée football. La Ligue des Champions reprend ce soir 21h. Lille, Wolfsburg, Barcelone, Bayern Munich aussi. Le PSG joue demain à Bruges. La météo dans un instant.
Construire un monde plus humain, plus solidaire et respectueux de la planète, c'est le combat de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir.
Ce monde n'est pas une utopie. Nous pouvons tous concrètement contribuer à le faire advenir.
Mais tout cela ne sera possible que par une révolution des consciences.
D'un monde à l'autre, de Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Enfin, au livre de poche.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois ? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée ? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Radio France, partenaire des Journées européennes du patrimoine. Le ministère de la Culture vous invite à découvrir des lieux uniques autour du thème « Patrimoine pour tous ». Sites remarquables, lieux de pouvoir et plusieurs milliers de monuments seront heureux de vous ouvrir leurs portes les 18 et 19 septembre. Ensemble, faisons vivre le patrimoine. Programme et modalités de visite sur journeedupatrimoine.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
On va vous écouter très attentivement. Gare en vigilance rouge et 6 autres départements en orange en Occitanie.
Oui, on a des orages intenses qui s'abattent depuis la fin de nuit sur le Gard et l'Hérault. Il est tombé 244 mm de pluie en 3 heures à Saint-Dionysie dans le Gard. C'est plus de 2 mois de pluie. Actuellement, une zone active se décale à l'est de Nîmes entre Monfrain et Beaucaire. On a relevé également 74 mm de pluie à la station de l'aéroport Nîmes-Garon. Alors l'activité, elle faiblit par l'ouest. La vigilance devrait être levée à 14 heures sur l'Hérault et sur le Gard. Attention aux crues. Une vigilance orange crue est en cours pour la Vistre sur le département du Gard. Et puis on a une nouvelle vague orageuse qui va arriver dans l'après-midi du sud-ouest jusqu'au nord-est. Et là, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron et le Lot sont placés en vigilance orange pour des orages qui pourront durer toute la nuit prochaine. Donc des pluies importantes en très peu de temps et de la grêle attendue.
Élodie Calac, Météo France. Il y a une heure, la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, disait à 7 heures, nous ne déplorons aucune victime et désignait le secteur entre Montpellier et Nîmes comme le secteur le plus critique. Nous continuerons de suivre la situation météo, évidemment. Laetitia Gaillet à 14h pour le flash. Pour l'instant, nous parlons de la rentrée universitaire.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Une rentrée aussi normale que possible. C'est le fil rouge dans l'enseignement supérieur comme dans les écoles, collèges et lycées. La rentrée universitaire, 3 millions d'étudiants en tout dans le supérieur, se déroule au fil des semaines de ce mois de septembre. Pas de jauge, 100% présentiel donc, pas de passe sanitaire mais un masque sur le visage. Quelles traces ont laissé les longs mois de confinement, enseignement à distance, obstacles au stage et séjour à l'étranger, autres jobs étudiants manquants? La rentrée universitaire, c'est notre sujet du jour. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Pour vos questions et témoignages, deux invités, Agnella Lamnawar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant. Et puis l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, en pleine crise, le 13-14 s'était installé sur le campus de l'université Picardie Jules Verne à Amiens. Le service de santé étudiant avait alors publié une étude très alarmante. Eh bien, nous avions envie de prendre des nouvelles des étudiants d'Amiens. Bonjour Mohamed Benlassen.
Bonjour.
Président de cette université Picardie, Jules Verne, comment vont les 32 000 étudiants sur les différents campus? Un an plus tard, je cite juste un chiffre de l'étude de l'année dernière, prévalence de la détresse psychologique. À l'époque, 72% des étudiants avaient une prévalence très importante. Comment vont-ils?
Je dirais qu'ils vont mieux et surtout, cette rentrée pose un marqueur fort, c'est leur envie de reprendre.
Oui.
Donc, ils sont majoritairement vaccinés, au-dessus de 90%. Et deuxièmement, on sent l'envie, ils ont envie de reprendre et envie de réenchanter un petit peu la vie étudiante.
Ouais. Quelles traces laissent les mois passés tout de même ?
Beaucoup d'interrogations sur leur futur, beaucoup d'interrogations sur comment appréhender le présentiel.
Ouais.
Et il y a certainement de notre côté tout un travail d'accompagnement. Parce qu'on sait très bien que les traces, que les secousses, ça ne se résorbe pas facilement. Donc, nous avons mis en place également beaucoup d'activités encadrées pour pouvoir reprendre un peu le fil et l'espoir un petit peu d'une vie normale.
Activités encadrées, c'est-à-dire ?
Par exemple, nous avons ouvert plusieurs ateliers artistiques. On va créer un temps fort associatif, des assises étudiantes qui auront lieu la semaine prochaine, avec l'idée suivante, faire l'état des lieux et surtout les aider à se projeter. Donc avec des témoignages étudiants, avec des témoignages de psychologues et de professionnels un petit peu.
Et les aider à se projeter, je retiens cette expression. Agnella Lamnawar, là aussi, température avant de rentrer dans le concret, un peu d'angoisse, envie de faire la fête et soulagement, c'est ça la tendance ?
Oui, tout à fait, c'est un énorme soulagement. On l'a vu, ça a été très compliqué psychologiquement pour beaucoup d'étudiants. On rejoint les constats avec un chiffre aussi marquant, plus de 23% des étudiants et étudiantes. Un an après la crise sanitaire, on avait évalué qu'il y avait eu des pensées suicidaires.
Ouais.
Donc c'est un soulagement de retrouver du présentiel, de retrouver des relations humaines en face à face, tout simplement. Et c'est synonyme aussi d'un retour de l'investissement, de l'engagement. On le voit notamment dans nos événements associatifs ou encore dans nos épiceries, on a beaucoup plus de bénévoles où il y a cette envie justement de continuer à s'aider et de retrouver cette cohésion et cette vie universitaire. Mais c'est également teinté forcément de négatif. On a des étudiants où c'est aussi très compliqué de retrouver au final de la foule et du monde après plus d'un an parfois de solitude. Et puis on a aussi toutes les questions sociales qui malheureusement n'échappent pas cette année encore.
Et on va les détailler. Mohamed Benlassen, le concret, on est bien. Alors d'abord, qui a repris chez vous et est-ce que tout le monde peut venir sur site? Comment ça se passe?
D'abord, les premiers à reprendre, ce sont les étudiants stagiaires pour l'enseignement.
Oui.
Et là, il s'agit d'environ 2000 étudiants. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les études de santé. Mmh. Donc ceux-là ont repris. Ils savent très bien qu'ils ont l'obligation de vaccination à partir de la deuxième, troisième année. Mais ce que nous a le plus étonné, c'est qu'ils étaient massivement vaccinés, même en première année. Ensuite, là, c'est plutôt science, droit, et ça reprend dans les meilleurs auspices, parce que, je le redis, hein, il y a cette envie-là. Et la deuxième chose, je veux rebondir sur les fêtes. Oui. Alors, on a eu un temps d'échange là-dessus, et ils veulent absolument le faire de manière responsable pour sauver leur année et leur présentiel.
Alors, la consigne générale, vous allez nous dire comment ça se passe à Amiens, soirée interdite dans les résidences universitaires, il faut l'autorisation du président sur le campus et il faut l'informer si c'est à l'extérieur, et jauge à 75%, c'est bien ça aussi à Amiens. Et est-ce que c'est réaliste de demander autant de contraintes aux étudiants qui ont envie, besoin de faire la fête après des mois aussi délicats?
Vous avez exactement exprimé un peu l'esprit des arrêtés que nous avons reçus. On voulait faire un peu plus que ça, parce qu'on savait très bien qu'ils ont le droit de nous annoncer ce qu'ils souhaitent. Nous, on a joué plutôt la carte éducateur, c'est-à-dire on leur a dit « voilà ce que dit le texte », mais on aimerait bien qu'on construise quelque chose de réaliste et surtout de transparent entre nous. Je pense que l'encadrement strict, c'est quelque chose de très compliqué. Ça crée des stratégies de contournement. Par contre, l'encadrement avec un dialogue, parce que justement, tout à l'heure, je vous ai parlé des ateliers, mais en fait, on a créé aussi des emplois étudiants qui vont encadrer ces fêtes-là, dans le sens, pas de débordement, et surtout, toujours garder en tête le présentiel.
Agnella Lamnawar, vice-présidente de la FAGE, à propos d'emploi étudiant, est-ce que les offres de job, est-ce que les offres de stage reviennent et est-ce que cette rentrée se déroule sous de bons auspices de ce point de vue-là?
Eh ben, c'est une réelle question, puisque déjà, pour donner également un chiffre, c'est quand même 46% des étudiants, donc une grosse partie de la population étudiante qui est concernée par le salariat. Et nous, on a un autre problème, c'est que on a vu que ce soit les différents couvre-feux, les confinements, ça a été un réel impact. Donc on s'est retrouvés aujourd'hui avec des étudiants encore plus précarisés par cette crise sanitaire et économique. Et aujourd'hui, on a un autre problème, c'est que après avoir été précarisés, après avoir eu des difficultés et des difficultés qui perdurent, aujourd'hui, le salariat, c'est une question qui n'est pas assez saisie par les politiques ou même par tout le monde en général. Le salariat, nous, on n'est pas foncièrement contre. Je m'explique, attention.
Oui, oui.
C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est emploi alimentaire, donc nous, on les qualifie comme ça, c'est-à-dire pour vraiment remplir le frigo, c'est un scandale et ça montre la problématique du système d'aide sociale étudiante en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des étudiants sont obligés d'aller courir à l'heure et courir à l'argent pour remplir le frigo. Par contre, ces emplois, et donc je pense que c'est ce que voulait dire le
président de l'université
d'Amiens,
oui.
On a des emplois qui peuvent être vraiment bénéfiques et nous, on aimerait que ça tende justement vers ces emplois. C'est des emplois qui développent les compétences, l'approche et l'expérience, ce qui nous est paradoxalement très demandé à la sortie du diplôme.
Et, donc, et les offres sont là ou pas?
C'est toute la difficulté. On est encore sur un système d'offres où c'est pas du tout en lien avec la formation et c'est vraiment des petits boulots en étudiants. Et puis, on subit forcément la crise économique et donc tous les emplois qui étaient privilégiés par les étudiants, c'est-à-dire les lieux de restauration ou les espaces, par exemple, de culture ou de fête. Aujourd'hui, ça reprend tout doucement leur activité.
Mais on parle de manque de main-d'œuvre dans ces secteurs. Je me dis qu'il doit faire appel à des étudiants et donc il doit y avoir des offres et des possibilités de trouver.
Ça dépend énormément des territoires au final et de comment l'activité a repris son cours. Forcément, les étudiants vont réussir quand même à retrouver de plus en plus des emplois, mais malheureusement, c'est des emplois qui vont avoir un impact pour le cursus universitaire.
Vous nous disiez en préparant cette émission, Agnella Lamnawar, que oui, la pauvreté a gagné du terrain. Alors, dans des villes comme Paris ou Lyon, c'est hélas connu, mais dans d'autres villes comme Angers, qui devient une grosse ville universitaire, ça se développe aussi.
La problématique de la précarité, on l'associe souvent à la précarité alimentaire, mais en fait, c'est plus un tout. Je m'explique, par exemple, le logement. Aujourd'hui, ça représente, comme on a pu le calculer dans notre coût de la rentrée, 50% du budget, oui. 550 euros en moyenne. Et attention, je ne prends pas l'Île-de-France, où on est à plus de 600 euros, encore une fois. Et par exemple, Angers, qui n'est pas une zone tendue, pourtant, et qui se retrouve aujourd'hui, malheureusement, sans logement pour les étudiants, et où on a actuellement des logements, enfin, des étudiants qui sont à la rue, et où nos fédérations mettent en place, et c'est ce qui se développe aussi sur Amiens, des logements d'urgence où les particuliers viennent bénévolement accueillir des étudiants et des jeunes.
C'est ce qui se développe à Amiens, vous confirmez, Mohamed Benlassen ?
Tout à fait, le constat est très juste. Ce que je voulais rajouter, c'est sur l'emploi. Nous, on est dans une fourchette d'augmentation entre 20 et 30% d'emploi parce qu'on préfère que les étudiants travaillent chez nous dans la mesure où on va respecter aussi leur évolution pédagogique. La deuxième chose, tous les étudiants qui se sont engagés durant la crise, nous avons une UE, une unité d'enseignement,
oui.
qui est reconnue dans le diplôme, qui s'appelle UE Engagement. Ils ont tous bénéficié d'une évaluation positive dans cet UE Engagement qui est maintenant, on l'a constaté, il y a énormément d'étudiants qui s'y inscrivent et c'est pour ça qu'on a voulu profiter un petit peu de cette vague-là, c'est-à-dire capitaliser sur cette solidarité. La deuxième chose, la précarité a toujours existé. En fait, la crise a juste mis une loupe. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître après la crise. Il y a des choses que nous devons pérenniser. Je parle là au nom de tous mes collègues présidents. C'est-à-dire qu'on va soutenir les épiceries, on va pérenniser un peu le soutien aux épiceries solidaires. Ça, c'est clair. Mmh. Mais il y a aussi une précarité que nous n'avons pas vue et que nous avons ces buts, ce sont les zones blanches. Par exemple, à Amiens, il y a des étudiants qui avaient la possibilité d'être autonomes sur le plan informatique, d'avoir les ordinateurs, mais ils sont dans des zones blanches où ils ne pouvaient pas recevoir un débit régulier. Et ça, c'est une vraie situation qui échappe aux universités et qui peut-être relève du politique pour qu'on puisse justement avoir une équité territoriale en termes de numérique.
Question de Sylvie au standard. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Nous vous écoutons.
Alors moi j'avais une question concernant le suivi psychologique de tous ces jeunes qui ont beaucoup souffert. Je trouve que c'est quand même une catégorie de la population qui a été, bon, entre guillemets, sacrifiée. Je voulais savoir si vous êtes au courant éventuellement d'une aide qui pourrait leur être fournie gratuitement si possible pour les aider à remonter.
Mohamed Benlassen, qu'en est-il à Amiens?
Pour Amiens, tous nos étudiants sont ce suivi-là, surtout les étudiants qu'on a repérés comme fragiles.
Tous les étudiants.
Oui, quasiment. Elle est offerte à tous les étudiants. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le rapport, nous avons fait un deuxième rapport, en deuxième étude, sur la santé mentale, mais cette fois-ci sur la notion du rebond, c'est-à-dire comment oui. ils vont pouvoir... C'est en cours d'analyse et vous serez destinataire des constats, parce qu'on va ici, comme on l'a fait auparavant, on va l'adresser un peu à la presse, parce que c'est très important de faire ce suivi. Et la troisième chose, nous avons, il y a l'aide qui a été proposée par le ministère, mais nous sommes allés un peu au-delà, parce que nous avons constitué un réseau, on a un réseau de généralistes, un peu 24 médecins, et on a un réseau maintenant de psychologues qui nous accompagnent, parce qu'en fait, la problématique au niveau des universités, c'est que nous avons un médecin, je parle pour le niveau français, hein,
oui.
on a un médecin étudiant pour 32 000 étudiants, contrairement à l'Écosse, à l'Irlande, ils ont un médecin pour 3 000.
Oui.
Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et sur le suivi psychologique, pour être honnête avec vous, c'est pas du tout, ces statistiques-là, c'est encore plus bas. Donc, nous avons 32 000 étudiants, nous avons un psy, et c'est pour ça qu'on a eu recours à ce réseau. Et on a utilisé massivement les chèques psy qui ont été évoqués par le ministère. Donc là, aujourd'hui, il y a un suivi sur ces rebonds parce qu'il y a également d'autres choses que la crise a révélées. C'est ce que j'appelle moi la digue qui s'est écoulée. Donc on a des étudiants qui viennent témoigner de traumas subis il y a 2 ans, 3 ans. Et tout cela, on essaie de les suivre avec les médecins qui travaillent avec nous.
Agnella Lamnawar, est-ce qu'il y a un suivi psychologique suffisant? On entend ce que vient de nous dire Mohamed Benlassen. Qu'est-ce que vous demandez à la FAGE de ce point de vue-là en cette rentrée universitaire?
Le constat est partagé, hein. Malheureusement, on aimerait bien dire que c'est pas le cas, mais les services de santé universitaire, voilà, l'emploi et le nombre de personnels dédiés, notamment à l'accompagnement psychologique, est insuffisant. Ça a été très bien expliqué. Ce qu'on avait fait également, c'était des campagnes très accrues, justement, de sensibilisation. Typiquement, on a, donc, si ça intéresse, et c'est d'autres solutions qu'il faut essayer de tester. il y a plus de réponses. On a recensé sur le site de l'AFAGE plusieurs justement associations, que ce soit par exemple Nightline, plusieurs fédérations où c'est totalement gratuit et c'est des professionnels parce que attention, il faut pas non plus s'improviser.
Absolument.
Accompagnateur ou accompagnatrice.
Donc on trouve ça sur le site de l'AFAGE.
Tout à fait.
Merci à tous les deux d'avoir participé à ce quart d'heure consacré à la rentrée universitaire. 13h44.
France Inter, le 13-14.
Suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Les bourgeois de Calais.
Oui, le monument de Rodin, comment a-t-il été conçu et construit?
À tout à l'heure pour le vif de l'histoire. Avant cela, il y aura le feuilleton. Une semaine sur le chantier Notre-Dame. Nous serons avec les cordistes aujourd'hui. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Elle chante merveilleusement Mozart, mais pas seulement, loin de là. La soprano Véronique Jans donne un récital consacré à la mélodie française ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn. Elle est à votre micro, Frédéric.
Et ce soir, accompagnée d'un quintet avec piano, Véronique Jans chantera également du Berlioz avec L'île inconnue tirée des nuits d'été et du Massenet avec son morceau Nuit d'Espagne, programme romantique en diable.
On a pris le thème de la nuit, c'est pour ça que ce programme s'appelle Nuit, parce que dans la nuit, il y a toujours une période de folie, une période de nuit noire, une nuit angoissante, une nuit sombre, une nuit d'ivresse, une nuit d'amour, enfin voilà, donc on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Et donc on a construit ce programme en quatre grands thèmes comme ça autour de la nuit.
Vous vivez beaucoup la nuit ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je dors très mal déjà, je suis une grande insomniaque, mais surtout, je suis probablement pas la première ni la dernière à vous dire que la voix a besoin de repos et il n'y a rien de mieux pour la voix que de dormir, de se reposer.
Oui, on est loin de Gabriel Fauré, là. C'est la voix de Cher qu'a choisi de nous faire écouter Véronique Jans avec Song for the Lonely.
Chanson pour les gens seuls. Elle date de 2001, cette chanson, mais l'admiration de Véronique Jans pour Cher est plus ancienne encore.
Quand j'étais une très jeune chanteuse et même une adolescente, elle me fascinait, cette femme me fascinait. Parce qu'elle représente à elle-même tout ce qu'on peut faire dans un spectacle, quoi, avec son visage bricolé dans tous les sens, avec sa voix trafiquée aussi dans tous les sens. Enfin, je ne sais pas quelle est sa vraie voix, en fait. Personne ne sait. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Nous, les chanteuses classiques qui devons avoir un son pur, dès qu'il y a le moindre truc sur les cordes vocales, oh là là, ça y est, elle ne peut plus chanter, elle a un nodule, il faut l'opérer. Enfin, voilà, c'est tout le contraire de ce qu'on recherche chez nous, les chanteuses classiques, chez une chanteuse comme elle. Elle a dû avoir 150 nodules, elle fume comme un pompier. Enfin, je veux dire, apparemment, elle fait la fête, elle, beaucoup plus que moi. Elle est tout ce que je ne suis pas, tout ce que je ne serai jamais, probablement. Et cette voix très grave et très profonde, ça me touche beaucoup.
La voix de Cher la touche, Véronique Jans. Cette voix aussi trafiquée que son visage. Et ce qui touche, par ailleurs, notre soprano, c'est l'énergie qui se dégage de ce titre qu'elle écoute souvent quand elle-même se sent lonely.
Cette chanson-là me ramène beaucoup à des semaines de solitude quand on est une chanteuse d'opéra. On laisse sa famille, ses enfants, sa maison pendant des mois. Et ça, c'est des périodes que j'ai toujours trouvées très difficiles à vivre parce qu'il y a un mois de répétition, un mois de spectacle et on est loin de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on connaît, dans des villes qu'on connaît pas, avec des chefs d'orchestre qu'on ne connaît pas, on connaît pas les musiciens. Voilà, et c'est toujours une grande solitude que j'ai toujours eu beaucoup de mal à vivre, à supporter, à assumer. Je me revois à Vienne, par exemple, pour une nouvelle production du théâtre An der Wien. Je chantais Iphigénie, Antoride de Gluck. Qui est un truc juste atroce où tout le monde passe son temps à se trucider. Enfin, le fils tue la mère, qui elle tue le père. Enfin, bon, voilà, c'est que des choses.
L'opéra.
Voilà. L'opéra, voilà. Il n'y a pas que ça, mais il y a quand même beaucoup ça. Et c'est vrai qu'en sortant de 6 heures de répétition par jour, on a quand même la tête un peu. En plus, on se retrouve, on est tout seul. À Vienne, il fait nuit l'hiver. Ça, c'est très dur à 3-4 heures de l'après-midi. Écouter Cher dans cette chanson, ça me donnait du courage, tout simplement. En tout cas, elle vide la tête. parce qu'elle a ce rythme qui avance, enfin c'est un rythme de danse. Enfin moi ça me dope beaucoup parce que c'est tout le contraire de la musique que j'ai l'habitude de chanter.
Formidable Véronique Jeans qui nous disait donc écoutez Cher, Song for the Lonely, Frédéric.
Véronique Jeans, que l'on retrouve donc ce soir à 19h au Théâtre du Châtelet pour son récital Nuit et Dans les Bacs avec Passion. Lully Charpentier démarrait un nouveau disque qui marque son grand retour à la musique baroque.
À demain.
À demain.
Nous passons jusqu'à vendredi une semaine dans la vie des restaurateurs de la cathédrale Notre-Dame. Rémi Brancato parcourt le chantier avec les sculpteurs, les charpentiers, les échafaudeurs, tous les ouvriers et artisans qui travaillent sur ce chantier le plus célèbre de France, 2 ans et demi après l'incendie. Et aujourd'hui, les cordistes.
On va emprunter un des ascenseurs qui permet de monter à travers les échafaudages qui ceinturent la cathédrale.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Moi, je m'appelle Grégory Vacheron. Je suis chef de chantier sur Notre-Dame. J'ai tendance à dire que j'ai la chance d'avoir un des plus beaux bureaux du monde, même s'il est un petit peu endommagé. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu la maison. Là, on arrive sur la partie du cœur de la cathédrale. C'est une partie où des parapluies ont été entreposés.
Donc ces parapluies, ce sont des bâches tendues sur des structures métalliques qui sont là au-dessus du toit de la cathédrale pour effectivement la protéger de la pluie.
Exactement. Il a fallu, sous la pluie, remettre des bâches qui auraient pu se fragiliser et qui auraient pu se déchirer. Ton bac à scie, il va arriver jusqu'à. Et du coup, là, nous, on remet un petit bout ou
tu... Après, il y aura certainement une retouche à faire.
Voilà, là, on est en train de déposer une partie des parapluies provisoires. Et les charpentiers sont en train de construire un parapluie rigide.
On va s'avancer un tout petit peu. C'est ici, si je ne m'abuse, que se dressait, avant l'incendie du 15 avril 2019, la flèche.
On a fait le ménage. Les voûtes étaient sinistrées dues à l'incendie, fragilisées. On a dû intervenir pour déblayer tous les morceaux de charpente qui étaient présents sur les voûtes, sans prendre appui sur celle-ci, puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas la résistance de celle-ci. J'ai eu le droit de descendre, faire la première descente dans l'échafaudage incendié, dans cet amas de ferraille. On est les seuls, les premiers à l'avoir fait. C'est quelque chose que notre cerveau a pris en photo, qu'on se rappellera tout le temps.
Grégory, vous êtes accompagné d'un apprenti. Vous êtes encore apprenti ?
Non. Bonjour. Tristan Lucère-Rosset, j'ai 20 ans. Je suis en formation, en fait. J'ai intégré Jarnias en juillet 2020, après avoir vu un reportage sur France 2. Je venais de terminer mes études et je savais pas quoi faire.
Un bac en poche ?
Ouais.
Okay.
Bac en poche, tout bien. J'allume la télé, je traîne sur les réseaux sociaux et je tombe sur une vidéo et je me suis dit je veux faire ça de ma vie. Et je me suis donné tous les moyens pour y arriver.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce reportage, dans ce métier ?
Bah évoluer en hauteur, faire quelque chose qui est pas commun. Et c'est surtout venir à la cathédrale. Moi mon rêve c'était de venir à la cathédrale.
Vous avez fait une formation de cordiste ? Vous avez...
Ouais, j'ai fait une formation qui dure 5 semaines. Je viens à Paris pour travailler, j'ai fait un mois à la Tour Eiffel. Et maintenant, bah, j'ai fait partie de cette aventure. Ce que j'ai fait, bah, ça a été de la pose de bâche pour l'étanchéité, la pose défilé pour sécuriser en dessous des voûtes, de la pose de capteur sur les endroits les plus sensibles. Alors, on arrive avec notre harnais,
ouais.
On s'arnache et on se suspend au-dessus des voûtes. Et après, on descend, on vient poser nos capteurs, tout ça en travaillant suspendu sans toucher les voûtes.
Et ces capteurs servent à quoi ensuite ?
Ces capteurs, ils servent à surveiller le moindre mouvement des voûtes. Par exemple, si ça bouge de quelques millimètres.
Cela permet de s'assurer de la stabilité de l'édifice, du monument de Notre-Dame.
C'est ça.
Grégory, vous avez 35 ans et ça fait un certain nombre d'années désormais que vous êtes cordiste. C'est un peu le chantier d'une vie ?
Oui, je pense que c'est le chantier d'une vie et je pense que ça sera le chantier de la mienne. Il m'est arrivé aussi quelques fois de pouvoir me balader à l'intérieur avec aucun bruit. Et effectivement, il se dégage quelque chose de mystérieux. On se sent le devoir de tout faire pour la remettre sur pied.
Et ce feuilleton, c'est aussi une très jolie page internet. 5 métiers au chevet de Notre-Dame de Paris. On aura sauvé la grand-mère. C'est le titre sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire autour d'une des sculptures les plus célèbres de Rodin. Un écrivain, Michel Bernard, raconte l'histoire des bourgeois de Calais. La scène qui a inspiré Rodin date des débuts de la guerre de Cent Ans. 1347, six bourgeois, nous dit la chronique, remettent les clés de leur ville au roi d'Angleterre. En tête de la délégation, il y a un certain Eustache de Saint-Pierre. Le roi, c'est Édouard III, qui est également duc d'Aquitaine, ce qui fait un bon morceau de la France, Jean.
Alors, il avait entrepris une vaste chevauchée dans notre pays et choisi Calais pour y faire porter le produit de ses pillages, qu'il comptait ensuite expédier en Angleterre. Encore fallait-il que ses bateaux puissent rejoindre le port. Il escomptait que les Calaisiens ne résisteraient pas. Ils avaient la réputation de n'être pas fidèles à 100% au roi de France. En réalité, c'est ce dernier qui les a lâchés. Après avoir établi un moment un camp de toile à Sangatte, il le démantela et laissa les habitants de la ville à eux-mêmes. Les Calaisiens en furent réduits à manger toutes ordures par droite famine et leurs échevins, tout nus en leur chemise, la corde au col, s'avancèrent vers le roi d'Angleterre. Le roi les regarda très furieusement, mais sa femme, née française, obtint que pour l'amour d'elle, il leur offre sa grâce.
C'est cette grâce que veut commémorer le monument que la ville de Calais souhaite ériger à la fin du 19e, donc plus de 500 ans après l'épisode, un siècle après la Révolution française. Et Michel Bernard en restitue la fabrication en prenant le point de vue du maire de l'époque.
Maître de Vavrin, notaire de son état, Homer de son prénom. C'est un jeune notable mais qui sait calculer. Alors il veut offrir un monument qui montre l'attachement indéfectible de Calais à la France et en même temps, les Anglais, nombreux à nourrir le commerce de la ville, n'en seront pas mécontents puisque le monument témoignera aussi de la grandeur d'âme de leur ancien souverain. Le nom de Rodin est indiqué à de Vavrin. Michel Bernard imagine la première entrevue des deux hommes, puis la première visite du sculpteur à Calais, où Léontine de Vavrin lui fait les honneurs de leur tranquille ménage. Rien n'a préparé Homer et Léontine à admirer l'art de Rodin, qui est loin ces années-là d'attirer tous les honneurs. Comment ce couple, elle encore plus que lui, a-t-il été ainsi attiré par ce qu'il ne soupçonnait pas ? Comment l'un et l'autre, par la grâce de Rodin, sont-ils devenus des bourgeois, comment dire, augmentés ? Bah, c'est la question que veut explorer ce livre.
Homer et Léontine d'un côté, Rodin Auguste de l'autre, Michel Bernard peint des partenaires avec la même considération pour les premiers que pour les seconds.
Et on suit le long labeur qui les unit à distance. Homer à Calais essaie de garder tel un berger le groupe des notables réunis autour du projet. Rodin à Paris ne cesse de retravailler jusqu'au détail. Chaque pied de chacun des six bourgeois doit avoir sa vie. En plus, il est assailli par les commandes et tout autant par son histoire avec sa farouche amie Camille Claudel. Pendant toute cette période, il œuvre aussi à la porte de l'enfer dont on ne saura jamais si elle est vraiment finie, ouverte ou fermée. Et c'est seulement en 1895, bien après le centenaire de 89, première date prévue, qu'il jugera l'inauguration des bourgeois. Enfin possible.
Et alors, question clé, à quelle hauteur mettons les personnages ?
Au-dessous du ciel, hein, ça c'est entendu. Je dis ça sérieusement parce que Rodin, selon Michel Bernard, commence à sculpter par le ciel, ce qui est paradoxal. Oui, mais par rapport à la terre, haut, au-dessus des têtes, puisque ce sont des héros. Mais jusqu'où le sont-ils, Eustache de Saint-Pierre, après avoir fait amende honorable, va en fait poursuivre une carrière tranquille à l'ombre du roi d'Angleterre. On finira par placer les bourgeois à hauteur d'homme, les passants les voient comme des compagnons d'à peu près leur taille et qui avancent comme ils peuvent, comme eux. Michel Bernard, à l'issue de ce beau livre, ne pose pas la question qui, moi, me vient aux lèvres. Et les réfugiés qui hantent aujourd'hui Calais, comment regardent-ils les bourgeois ?
La sculpture est devant l'hôtel de ville. Il y a 12 originaux, un à Paris, évidemment au musée Rodin. Michel Bernard, les bourgeois de Calais, ce livre est édité à la Table Ronde. Merci Jean Lebrun.